Radio Vatican, Français-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape a reçu vendredi en audience plusieurs personnalités et groupes. Nous reviendrons sur ces rencontres dans l'actualité de l'Église de cette édition de notre programme. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous nous rendrons au Bénin, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira notamment à Madagascar, en Afrique du Sud, en Somalie. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français-Afrique, Stanislas Kambashi.
Le pape a reçu vendredi en audience M. Raphaël Schutz, nouvel ambassadeur d'Israël près les Saint-Sièges, venu lui présenter ses lettres de créance. Le Saint-Père s'est ensuite entretenu avec le cardinal Eugenio Dalcosso, archevêque émérite de Benguela en Angola. Toujours vendredi, François a reçu les membres de l'Académie suédoise. Dans les discours qu'il leur a adressés, le Saint-Père a souligné l'importance du dialogue social et de l'amitié sociale comme voie maîtresse vers une culture de la rencontre capable de sortir le monde de l'enfermement et de la méfiance provoquée par la crise due à la pandémie et par des monologues qui provoquent le développement des réseaux sociaux. Loin d'être synonyme du relativisme, le dialogue est au contraire une voie qui conduit à la recherche de la vérité et à la reconnaissance de la dignité inaliénable de toute personne. Aussi, il nous faut armer les jeunes générations des armes du dialogue et leur enseigner la bonne bataille de la rencontre, a encore déclaré le Saint-Père. Vendredi, le pape a en outre reçu les participants à la conférence sur le travail des enfants qui a eu pour thème « Éradiquer le travail des enfants, construire un futur meilleur ». Le travail des enfants n'est pas à confondre avec les petites tâches domestiques qui participent à leur bonne croissance. Le travail des enfants, c'est plutôt l'exploitation des enfants dans les processus productifs de l'économie globalisée à l'avantage du profit et du gain. C'est la négation du droit des enfants à la santé, à l'instruction, à une croissance harmonieuse qui comprend aussi la possibilité de jouer et de rêver. Faire travailler les enfants, c'est voler le futur des enfants et donc aussi celle de l'humanité. C'est une lésion à la dignité humaine, a déclaré le pape François. La pauvreté extrême, le manque de travail et la disparition des familles sont autant des facteurs sur lesquels nous devons travailler si nous voulons éradiquer cette plaie de l'exploitation du travail des enfants, a par ailleurs indiqué le Saint-Père. Notons que cette conférence sur l'éradication du travail des enfants a été organisée par les dicastères pour les services du développement humain intégral. Comme chaque année, l'humanité célébrera le dimanche 21 novembre la Journée mondiale de la pêche. À cette occasion, le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour les services du développement humain intégral, a adressé un message dans lequel il lance un appel en faveur de l'amélioration des conditions professionnelles et des traitements salariaux des pêcheurs du secteur industriel et commercial. Les accidents de travail provoquent au moins 24 000 morts par an. Les conditions de travail à bord des bateaux de pêche sont inhumaines. Les pêcheurs sont souvent abandonnés à leur triste sort. Aussi, le cardinal Turkson appelle les organisations internationales, les gouvernants, les sociétés civiles, les différents acteurs de la pêche et les ONG à unir leurs forces pour contrecarrer de nombreuses violations des droits de l'homme en mer. Du 18 au 20 novembre 2011, le pape émérite Benoît XVI effectuait un voyage en Afrique, particulièrement au Bénin. C'est à cette occasion qu'il remettait aussi l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Cela fait donc 10 ans depuis cet événement. Africae Munus, 10 ans après. Pour Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo au Bénin et secrétaire général de la Conférence épiscopale du Bénin, Africae Munus est toujours d'actualité. Il nous invite à nous approprier davantage de ce document.
Africae Munus est tout à parfait d'actualité puisque c'est une feuille de route qui nous a été confiée pour être au service de la réconciliation, de la paix et de la justice en Afrique. Ce que nous souhaitons, c'est que ces documents soient davantage réappropriés et que nous puissions davantage en faire notre feuille de route parce que la profondeur de la réflexion du pape Benoît XVI nous invite à ne pas baisser les bras. Et je le dis non seulement pour l'Église d'Afrique, mais pour toute l'Église universelle, car avec Afrique Mounous, nous avons constamment besoin d'une mise à jour, d'un aggiornamento. Afrique Mounous reste d'actualité pour l'Église d'Afrique. La construction d'un ordre social juste, c'est vrai, relève de la sphère politique, mais une des tâches de l'Église d'aujourd'hui en Afrique, ce serait de former les consciences droites, les consciences réceptives aux exigences de la justice pour que grandissent des hommes et des femmes soucieux et capables de réaliser ce ordre social-là. Donc, Afrique Mounous reste pour nous un modèle, quoi que le pape François lui-même ne s'exprime pas autrement dans son souci de voir l'Église d'Afrique grandir et aller de l'avant.
Monseigneur Aristide Gonçalo, évêque de Porto Novo au Bénin et secrétaire général de la Conférence épiscopale du Bénin. Nous reviendrons avec beaucoup plus de détails sur la célébration des 10 ans d'Afrique Mounous dans nos prochaines éditions. Le Centre d'études et de recherches chrétiennes au Congo-Brazzaville a organisé une conférence en l'honneur de Monseigneur Anatole Milandou au moment où celui qui aura été archevêque de Brazzaville pendant au moins 20 ans se prépare à la retraite. Notre correspondant nous en parle.
Cette conférence s'est ouverte par l'exécution de la congolaise hymne du Congo-Brazzaville avec la prière dite par le chargé d'affaires à la nonciature apostolique du Congo. Dans sa communication qui a porté sur la vie et l'œuvre de Monseigneur Anatole, l'historien l'abbé Ibombo a souligné les points saillants de la vie du pasteur plein d'amour, de respect et de simplicité. Le théologien l'abbé Etuolo a entretenu l'auditoire sur l'aspect théologique et la lettre pastorale de Monseigneur Anatole intitulée « Chrétien de Brazzaville, visons fait ton baptême, sois enraciné dans le Christ ». Pour lui, cette lettre est un héritage pastoral, une feuille de route qui permettrait à la postérité de développer une réflexion pour pouvoir répondre aux questions qui se posent à notre contexte. Dans le même ordre d'idées, un autre théologien, l'abbé Ganao, a renchéri en disant que « la lettre pastorale de Mgr Anatole est une invitation à revenir à notre source qu'est le baptême ». L'abbé Biela a quant à lui fait un lien anthropologique entre la devise de Mgr Anatole archevêque sortant et celle de Mgr Bienvenue Manamika archevêque entrant. Il ressort de cette analyse la logique de la continuité de la mission basée sur la notion de service. En dehors de ces quatre conférences, il y a eu aussi des témoignages sur la vie et l'épiscopat de Mgr Anatole. Cette conférence en honneur de Mgr Anatole Milondo a pris fin par un mot de l'intéressé. Il a remercié les organisateurs et les participants. Sévérin Mossavo, Brazzaville pour Radio Vatican.
Au Bénin, la communauté des sœurs Claire Amitié a tenu pour la première fois son assemblée générale à Cotonou pour l'installation d'une de ses conseillères générales. Les détails.
La communauté des sœurs Claire Amitié Universelle, sise à Bodié dans l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, a tenu pour la toute première fois de son histoire son assemblée générale en dehors de Rome, suivie de l'installation de son nouveau conseil général. La messe de clôture de la rencontre a été présidée le samedi 13 novembre 2021 par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Ongbedi, et concélébrée par son directeur à la communication, le père Hubert Kerouvidé. La mère générale du nouveau conseil, mère Sylvie Loury, a saisi l'opportunité pour nous faire découvrir la communauté et sa spiritualité.
Nous sommes des femmes engagées en église et nous accompagnons des jeunes femmes aussi en difficulté et nous vivons vie communautaire pour être dans un service total pour toutes ces jeunesses défavorisées dans le monde. Claire Amitié parce que Claire c'est la lumière et Amitié amour.
L'une des stagiaires en fin de formation, Ibrahima Ngomina, Anne-Marie, a témoigné.
Je viens d'une famille musulmane, je me suis convertie. Après ma conversion, j'ai voulu donner ma vie à Dieu, mais j'ai voulu rester en laïque, civil. Je ne voulais pas porter quelque chose qui puisse attirer encore plus l'attention.
La page d'évangile du jour a permis à Monseigneur Ngomedi de nourrir les participants de la parole de Dieu.
Dieu est un père à l'écoute de ses enfants. Nous avons juste de rester en phase avec lui dans la prière pour que toutes nos actions prennent leur source en lui.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit à présent en Côte d'Ivoire, où la congrégation Notre-Dame de la Paix a eu la joie de fêter 9 de ses membres, les sœurs qui ont prononcé leurs vœux perpétuels. Notre correspondant nous rend compte de cette ambiance festive.
C'est dans l'allégresse, une profonde action de grâce à Dieu que la famille religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Paix a accueilli en son sein 9 nouvelles professes. Monseigneur Jean-Salmon Lesotier s'est félicité de leur volonté à servir le Seigneur. L'évêque de Yopougon les a surtout encouragés au terme de cette cérémonie à continuer à être toujours un bon signe de témoignage dans leur mission.
C'est une congrégation de témoignages. On a eu très peu de choses à leur reprocher depuis que je suis évêque. Donc quand je les vois, je me souviens de leurs prières ardentes et elles ont une très bonne moralité. On ne peut pas lancer trop de fleurs, surtout qu'elles sont concernées en ce jour. Sinon, c'est la vie de témoignage, un bon témoignage de vie qui les caractérise et effectivement, j'aurais pu les encourager dans ce sens.
Désormais engagées au sein de cette famille religieuse, ces nouvelles professes entendent servir le Seigneur avec amour, mais également leurs frères et sœurs en témoignent cette réaction de sœur Rosemonde Kwame Afoué.
Sentiment de joie m'anime car j'ai décidé de suivre pour toujours le Seigneur. Je veux juste me donner à lui, l'aimer, servir mes frères et mes sœurs dans la joie du Christ et dans la paix. Je compte le suivre en vivant d'abord les vœux que j'ai professés, mais en le servant aussi dans l'apostolat auprès de mes frères.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ouvrons l'actualité sociale et politique en Afrique par Madagascar. L'ONU, qui estime que la famine qui frappe le pays est la première due au réchauffement climatique provoqué par l'homme, a réclamé vendredi plus de fonds aux donateurs pour venir en aide à plus de 1 million de personnes dans le sud de l'île. Les besoins financiers ont été multipliés par 3 et il faut désormais 231 millions de dollars d'ici mai, dont seulement 120 millions ont pour le moment été versés par des donateurs, a expliqué Jens Lirk, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires lors du briefing des presses réguliers de l'ONU à Genève. Monsieur Lirk a indiqué que techniquement, la famine n'a pas encore été déclarée à Madagascar parce que tous les critères de l'ONU ne sont pas encore réunis, a-t-il insisté, ajoutant qu'il y a déjà plus de 28 000 personnes qui souffrent des conditions similaires à la famine. L'ONU s'inquiète en outre de l'aggravation rapide de la sécheresse en Somalie, où plus de 2 millions de personnes font d'ores et déjà face à des sérieuses pénuries d'eau et de nourriture qui pourraient empirer avec une probable 4e saison consécutive de faibles précipitations. C'est ce qu'a affirmé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué jeudi. La Corne de l'Afrique est à la veille d'une 4e saison des pluies défaillantes de suite, a prévenu le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. En Afrique du Sud, les meurtres ont augmenté de 20% au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période l'année dernière, principalement à cause des émeutes sans précédent qui ont secoué les pays en juillet, selon les statistiques de la police présentées vendredi. Entre juillet 2021 et fin septembre 2021, ce sont plus de 6000 personnes qui ont été tuées en Afrique du Sud, soit une augmentation de plus de 20%, a déclaré le ministre de la Police, Bekki Sélé, lors d'une conférence de presse. Les viols ont également augmenté avec plus de 9 cas pendant la période, soit 7% de plus par rapport au même mois l'année dernière, rapportent ces statistiques. En Afrique du Sud, un meurtre est recensé toutes les 25 minutes et 115 plaintes pour viol enregistrées chaque jour.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Les violences des forces de l'ordre soudanaises contre des manifestants désarmés sont tout à fait honteuses. C'est ce qu'a dénoncé Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, après les bilans sanglants des mercredis et des nouvelles violences jeudi. Mercredi, au moins 11 des 15 manifestants tués au cours de la journée la plus sanglante depuis les coups d'État du 25 octobre sont tombés sous les balles des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, la tête, les coups ou les torses. Des parures vieilles d'entre 142 000 et 150 000 ans, de ce fait considérées comme les plus anciennes au monde, ont été découvertes au Maroc, non loin de la station balnéaire des Sawira, ont annoncé jeudi des responsables gouvernementaux et paléontologues. Il s'agit d'une découverte majeure pour le Maroc et pour l'humanité, s'est réjoui le ministre marocain de la Culture, Mohamed Mehdi Ben Saïd, en soulignant qu'elle renseignait sur les premières civilisations qui nous ont laissé un héritage découvert aujourd'hui. Au total, une trentaine de coquilles, dont des colliers et bracelets, ont été identifiées. Donatien Niembo nous présente le magazine du jour.
Soyez la bienvenue dans ce magazine qui vous présente quelques brèves ayant marqué l'actualité en dehors du continent africain au cours de la semaine. Une nouvelle séance des négociations pour tenter de régler les différends entre Londres et l'Union européenne sur la mise en œuvre du protocole nord-irlandais se tenait vendredi à Bruxelles. Mais le responsable britannique David Frost n'en attend pas de percée. Une grève entamée jeudi au sein de la chaîne d'information internationale en continu France 24, déployée partout dans le monde, se poursuivait vendredi, perturbant les programmes, a-t-on appris de sources syndicales. Plusieurs milliers d'habitants de la province d'Ispahan ont manifesté de nouveau vendredi contre l'assèchement de leurs rivières emblématiques dans le centre de l'Iran, dû entre autres à la sécheresse, a rapporté la télévision d'État. Le président américain Joe Biden va organiser un sommet pour renforcer les liens avec l'Afrique. L'annonce a été faite vendredi par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Suisse n'a pas d'ordre à recevoir de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis, soulignant que les négociations ne sont pas à l'ordre du jour tant qu'un agenda commun ne sera défini entre Berne et Bruxelles. Il existe un doute sérieux sur les intentions de Moscou en Ukraine, alors que la présence militaire russe s'intensifie aux frontières orientales de ce pays et que le processus de paix est au point mort dans le conflit ukrainien, a relevé vendredi le chef de la diplomatie française. Les Philippines vont prochainement de nouveau accueillir les touristes étrangers, a annoncé vendredi le gouvernement qui s'apprête à rouvrir en partie les frontières du pays pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19. 7 migrants ont été tués et 8 autres blessés selon la police vendredi tôt le matin quand leur véhicule a heurté les barrières d'une autoroute dans le nord de la Grèce, près de la frontière gréco-turque, passage habituel des migrants venant en Europe. L'Inde va abroger 3 lois de la réforme agricole après un an de manifestations massives d'agriculteurs en colère, a annoncé vendredi le Premier ministre Narendra Modi dans une surprenante volte-face. La Chine a rejeté vendredi la menace de boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin évoquée par Joe Biden pour protester contre les violations des droits de l'homme en Chine. Les migrants bloqués depuis plusieurs jours à la frontière Bélarusse ont été relogés jeudi dans un centre logistique à proximité pendant que plusieurs centaines d'entre eux étaient rapatriés en Irak après avoir abandonné tout espoir de gagner l'Europe via la Pologne voisine. Par ailleurs, les Bélarusses avaient annoncé mercredi avoir des négociations avec Bruxelles pour régler la crise migratoire en cours aux frontières de l'Union européenne, mais la Commission européenne n'avait évoqué que des discussions techniques sur le rapatriement dans leur pays des migrants. Les responsables allemands avaient décidé jeudi d'imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés et ouvert la voie à une obligation vaccinale pour les personnels soignants afin d'endiguer l'emballement de la pandémie de Covid-19 dans le pays. La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22% en un an, dépassant les 13 000 km², un record sur les 15 dernières années, contre lesquels le gouvernement de Jair Bolsonaro a promis des actions plus fermes. Environ 14 700 rebelles ont été tués en 5 mois dans la bataille pour le contrôle de la ville stratégique de Marib dans le nord du Yémen, avaient indiqué jeudi deux sources proches de Houthi, alors que les rebelles communiquent très rarement sur les pertes dans leur camp. Des militaires avaient été déployés jeudi dans l'ouest du Canada, sur terre et dans les airs, pour répondre aux importantes inondations et glissements de terrain qui ont fait un mort et plusieurs disparus, tandis que les évacués continuent de se compter par milliers. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait fait état mercredi d'une nette augmentation du stock d'uranium enrichi par l'Iran à quelques jours d'une visite de son chef à Téhéran et de la reprise de pourparlers pour ressusciter l'accord de 2015. L'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili, incarcéré depuis son retour d'exil début octobre et en grève de la faim depuis plusieurs semaines, est dans un état critique et ne reçoit pas les soins appropriés, ont affirmé des médecins mercredi soir. L'Arménie avait annoncé mardi avoir conclu une trêve avec la médiation de la Russie après une journée de combat près de la région disputée du Nagorno-Karabakh qui a fait craindre la reprise d'une guerre entre Bakou et Erevan. Un soldat arménien avait été tué et plusieurs autres blessés dans ces affrontements.
Suivons à présent la rubrique dans cette présentation de Marie-Josée Moindo Boisboileau.
Commençons notre rubrique sur la migration par la République démocratique du Congo. Comment impliquer la diaspora congolaise dans la dynamique de la reconstruction du pays? Une centaine des représentants de la diaspora congolaise s'y est penchée mercredi 17 novembre lors d'un forum dans la capitale congolaise Kinshasa, s'appuyant sur le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement. Les autorités de ce pays affirment que le volume des transactions de la diaspora vers le pays a dépassé le milliard de dollars américains. Dans son discours d'ouverture, le président congolais a rappelé tous les efforts qu'il fournit en vue d'amener la diaspora congolaise à s'impliquer dans la reconstruction du pays. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, cette conférence avait pour objectif principal de créer et de maintenir un cadre institutionnel de réflexion et de discussion en vue d'inciter et de promouvoir les investissements extérieurs susceptibles de booster l'économie nationale. Le président congolais a réitéré son engagement à travailler dans le sens de l'amélioration du climat des affaires et de l'allègement des conditions d'entrée des Congolais vivant à l'extérieur du pays, et de rappeler que, dans sa vision politique, la participation de la diaspora congolaise dans le processus du développement du pays figure en bonne place. À ce sujet, l'ancienne star de la NBA, Mutombo Dikembe, a été évoquée comme exemple, bien qu'ayant obtenu la nationalité américaine qui lui avait permis de jouer dans l'équipe nationale de basketball, il a prouvé qu'il gardait toujours son âme congolaise. Il avait construit un hôpital moderne dans la capitale Kinshasa et il vient de faire construire une école dans son territoire d'origine de l'Upatapata, au Kasaï oriental, où il n'avait jamais mis ses pieds. 10 cadavres de migrants morts étouffés ont été découverts à bord d'un bateau surchargé au large des côtes libyennes, c'est ce qu'a annoncé l'ONG Médecins sans frontières. Le navire de secours de l'ONG, le Geo Barents, a secouru les 99 survivants, a-t-elle précisé mardi soir. Ce trajet est extrêmement dangereux. Au moins 1236 personnes ont déjà péri cette année en tentant cette traversée contre 858 sur la même période en 2020, selon Flavio Di Giacomo de l'Organisation des migrations internationales de l'ONU. 7 migrants ont été retrouvés morts la semaine dernière à bord d'une embarcation en perdition au large de l'île espagnole de Grande Canarie et un 8e est mort à terre. ont annoncé dimanche les services de secours espagnols. Les occupants du bateau, 62 au total, d'origine nord-africaine, étaient à la dérive depuis au moins une semaine. Selon des estimations fin septembre de l'Organisation internationale pour les migrations, 2021 a été l'année la plus meurtrière sur la route migratoire vers l'Espagne, avec au moins 1025 morts. Des migrants qui traversent le Mexique à pied s'en remettent au président américain Joe Biden. Élu il y a un an, le président Joe Biden a promis de traiter avec plus d'humanité les migrants que pendant le mandat de Donald Trump. Depuis son investiture le 20 janvier, plus de 1 300 000 étrangers ont été interpellés à la frontière avec le Mexique, un niveau inédit depuis 20 ans selon des chiffres de septembre. Le Mexique a dû gérer une importante crise migratoire fin septembre avec des Haïtiens après avoir dispersé en août plusieurs caravanes. Les forces de sécurité polonaises ont arrêté une centaine de migrants alors qu'ils tentaient de franchir la frontière avec le Bélarus dans la nuit de mercredi à jeudi, le G7 accusant Minsk d'avoir orchestré la crise migratoire. Quelques milliers de migrants originaires principalement du Moyen-Orient se trouvent depuis des jours le long de la frontière polonaise du côté du Bélarus, dans l'espoir de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Mais Varsovie ainsi que les deux autres voisins européens du Bélarus refusent leur entrée irrégulière.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons fin à notre programme aujourd'hui. Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Radio Vatican.